Votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
François Mazet le disait à l'instant, c'est la libre antenne, 20 minutes pour vous permettre de commenter l'actualité de votre choix, revenir sur tous les événements, tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours. On a des commentaires sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, sur le report des élections législatives au Mali, sur la contestation en Côte d'Ivoire. On connaît les résultats des élections municipales et régionales, seulement voilà, le PDCI qui est désormais dans l'opposition conteste certains résultats, mais d'abord, la situation. À Anjouan, aux Comores. Depuis lundi, des civils armés sont retranchés dans la médina au cœur de la capitale. Les affrontements en début de semaine avec l'armée ont fait 3 morts, selon le bilan officiel. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Merci de nous appeler. Vous êtes justement sur place à Anjouan, vous êtes dans la capitale, et vous souhaitiez profiter de la libre antenne pour témoigner. Vous disiez il y a encore quelques minutes au Standard que la situation était de plus en plus inquiétante.
Oui, effectivement, la situation qui prévaut actuellement sur Anjouan est particulièrement grave et de nature à déstabiliser le pays. Je pense en tout état de cause que le non-respect de la Constitution, des accords dits de Fomboni, des arrestations arbitraires dont sont victimes les partisans de chef d'État Ahmed Abdallah Sambi, et bien sûr la détention de ces derniers, la conjugaison de toutes ces choses-là, a suscité un certain nombre de mécontentements qui, par la suite, s'est soldé, s'est transformé à quelque chose d'incontrôlable.
Oui. Alors, il faut quand même rappeler, il faut rappeler aux auditeurs qu'effectivement, en début de semaine, le gouverneur d'Anjouan avait appelé à une journée ville morte, ou en tout cas à des manifestations pacifiques pour protester contre ce qu'il appelle, lui, les dérives dictatoriales du président Azali, des dérives que vous venez vous-même à l'instant, Anaïs, de citer. Mais de là à ce que des hommes prennent des armes, vous êtes surpris par la façon dont les événements se sont accélérés?
Effectivement, vous savez, la situation qui prévaut actuellement sur Anjouan est incontrôlable, mais cela ne justifie pas les armes. Vous savez, moi je condamne avec la plus grande fermeté ces choses-là, car ils sont injustifiés et injustifiables. On peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses avec le gouvernement actuel, mais on ne peut quand même pas prendre les armes, prendre en otage, bloquer tout accès et toute circulation sur Moutamoudou.
La capitale. Justement, Anaïs, vous-même, comment vous vivez ces événements depuis le début de la semaine? On sait que dans la médina, les habitants n'osent plus sortir de chez eux, ils ont peur puisqu'il y a des tirs. On sait que les familles, donc dans la médina, sont cloîtrées chez elles, que la société d'État a coupé l'eau et l'électricité dans le quartier pour contraindre justement les insurgés à sortir de la médina. Vous le vivez tout ça au quotidien depuis lundi?
Effectivement, je les vis. Vous savez, les insurgés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont retranchés dans la médina, bloquant tout accès et toute circulation sur Moutamoudou. Bon, maintenant, l'eau s'est rétablie, l'électricité s'est rétablie, mais la situation est de plus en plus critique.
Que craignez-vous?
Ça s'est un peu calmé.
Ça s'est un peu calmé aujourd'hui,
mais la prudence reste toujours d'émise.
Ouais. Que craignez-vous? Est-ce que vous pensez que les autorités iront jusqu'à désarmer par la force ces insurgés?
Il y a eu une réunion hier entre le gouvernement de l'Union et l'exécutif d'Anjouan, représenté par les deux conseillers du gouverneur. J'ose espérer qu'ils vont trouver une solution, et trouver un consensus qui puisse arranger tout le monde, mais aussi qui puisse épargner la population de tout risque.
Ouais. On rappelle le bilan, pour l'instant officiel, 3 morts selon les autorités. Restez avec nous Anaïs, vous êtes sur place à Anjouan. L'un de vos compatriotes vivant à Paris souhaite également réagir. Bonjour Abdoulayim.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs.
Vous n'êtes pas surpris, vous, par la dégradation de la situation dans cette île comorienne?
Ah oui, mais je ne suis pas du tout surpris et c'était quelque chose de prévisible par rapport à ce qui se passe aujourd'hui aux Comores. D'autant plus que cette constitution qui a été établie pour solutionner le problème avec les séparatismes en 1997, le président est arrivé aujourd'hui en se faisant élire suite à une reprise de la tournante qui commençait à la Grande Comore, et venir tout d'un coup dire que je vais changer la constitution alors que vous vous êtes fait élire.
Oui, alors attendez, c'est un peu compliqué. Excusez-moi, Abdoulaye, si vous me permettez, je vais un peu résumer la constitution. Et bon, Dieu sait que c'est compliqué, mais c'est vrai que le système électoral comorien est particulier. La constitution prévoit une présidence tournante entre les trois îles de l'archipel, c'est-à-dire la Grande Comore, Anjouan et Moélie. Et donc, tous les quatre ans, le président doit être originaire d'une de ces trois îles. Hein, c'est le système tournante, comme vous le disiez à l'instant. Et l'objectif, c'était d'en finir une bonne fois pour toutes avec toutes les crises qui ont secoué les Comores. Seulement voilà, le référendum constitutionnel du mois de juillet remettait en cause ce principe de présidence tournante, et ça veut dire que ça veut dire que le président qui est actuellement au pouvoir pourra, s'il le veut, de nouveau être candidat lors de l'élection présidentielle de 2021, ce qui ne fait pas le bonheur évidemment des Anjouanais, des habitants d'Anjouan, puisque théoriquement c'est à Anjouan, c'est Anjouan qui devait désigner le prochain président.
Exactement. Et d'autant plus que pendant ce référendum, il a emprisonné sur une simple décision administrative l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, qui pouvait être le seul poids lourd qui pouvait contester cette décision de changer la constitution. Donc effectivement, les ressortissants d'Anjouan ressentent ça comme une injustice. Et donc c'était prévisible. Il ne s'agit pas de légitimer la prise d'armes de ces gens-là qui tirent sur les forces de l'ordre. Il s'agit surtout de dire que c'était quelque chose de prévisible et que le seul responsable de ce qui se passe aujourd'hui en juin, c'est le président Azali qui établit une atmosphère de dictature, je vais au-delà du sujet d'aujourd'hui, avec des emprisonnements de chiites, et des changements de constitution pour obliger les gens.
Oui, enfin changement de constitution. Excusez-moi, changement de constitution. Et on va pas passer les 20 minutes sur ce sujet-là. Mais changement de constitution, je vous l'accorde. Mais en même temps, il y a eu référendum et le oui a recueilli tout de même 93% des voix. Donc
on connaît les résultats en Afrique des référendums.
Bon, mais c'est important quand même de dire qu'il y a eu référendum, que la population a pu s'exprimer par la voie des urnes. Elle aurait pu voter majoritairement non. Visiblement, ce sont les résultats officiels, 93% des électeurs ont voté oui, donc favorable à cette révision de la Constitution. Après, vous avez le droit, évidemment, de dire que qu'il y a eu fraude et que ce ne sont pas les vrais résultats. On aura l'occasion, évidemment, de parler de la situation aux Comores la semaine prochaine. On aura l'occasion, on verra comment évolue la situation, notamment avec notre correspondante sur place, Anziza Chamgana. Je voudrais qu'on parle d'autres sujets qui vous ont marqué et qui nous arrivent au standard, notamment ce témoignage d'Alain, qui est un Bandaka au nord-ouest de la République démocratique du Congo. Bonjour Alain.
Bonjour RFI, bonjour à tout le monde.
Vous souhaitiez nous interpeller sur l'épidémie Ebola dans votre pays, précisément dans l'Est et particulièrement à Beni. Je précise aux auditeurs que ça fait maintenant plus de 2 mois que l'épidémie a éclaté, la énième épidémie en République démocratique du Congo. Le virus a déjà fait 130 morts depuis le 1er août. Vous êtes épargné, vous, en ce moment, à Mbandaka, par l'épidémie, mais il y a quelques mois, le virus avait gagné votre ville.
Effectivement, comme vous l'avez dit, nous sommes à la 10e épidémie que connaît notre pays. Et cela suppose que nous avons acquis une certaine expérience en termes de la riposte. Mais malheureusement, on se rend compte que c'est toujours le même péché qui revient. Vous allez vous rendre compte que la dernière fois que vous m'avez reçu dans votre émission, on a essayé de épingler sur ce que moi j'ai qualifié d'essentiel, c'est-à-dire la sensibilisation.
Oui.
Malheureusement, c'est le même péché qui revient. Les équipes que l'on met en place pour la riposte pêchent par leur procédé. Ce qui fait que la situation devient de plus en plus incontrôlable.
Ouais. Enfin, vous dites que les équipes... Donc, à vous entendre, excusez-moi Alain, les équipes déployées sur le terrain, les médecins, les humanitaires, seraient incompétentes ?
Non, ils sont compétents sur le plan technique, mais leur faiblesse réside plus dans leur capacité de sensibiliser la population. Bien qu'il y a, il y a aujourd'hui les vaccins, mais la méthode la plus efficace, c'est la prévention. Et la prévention sous-entend la sensibilisation. Expliquer à la population ce qu'il y a, mais aussi le mécanisme pour éviter ce qui est contamination.
Ouais. Mais en même temps, c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué à Beni, dans l'est de la RDC, que la zone, sur un plan sécuritaire, est très instable. Il y a un groupe armé qui multiplie les attaques contre les civils. Donc, c'est déjà compliqué pour les humanitaires d'aller dans ce secteur-là. Et quand les médecins arrivent sur place, ils sont souvent face à des habitants qui refusent d'être surveillés, qui refusent d'admettre l'épidémie. Donc, c'est compliqué de transmettre un message tout de même.
Non, mais les médecins ne sont pas appelés à sensibiliser. Il fallait plutôt cibler le personnel ressources, les leaders d'opinion. Ce sont eux qui devaient faire passer les messages. Parce que je prends le cas de ce qui s'est passé ici chez nous. On nous a envoyé des affiches écrites en anglais. C'est déjà un problème. On fait passer le message en français ou en anglais. C'est déjà une difficulté. La meilleure manière de faire, c'était quoi? C'était de chercher d'abord le personnel ressource, des gens qui ont une certaine maîtrise de l'environnement, qui connaissent les réalités sociologiques de cette population, pour que le message puisse passer normalement. Parce que lorsqu'on met l'accent sur le vaccin, eh ben le vaccin ne vient que pour essayer de résoudre un problème.
Oui.
Alors que la prévention voudrait assez que le problème n'atteigne pas la population. Voilà pourquoi nous insistons sur la communication.
Bien.
Votre radio passe dans cet espace. Mais pourquoi ne pas utiliser RFI, qui a une grande capacité de communication, de sensibilisation, et utiliser en même temps les radios locales? Si déjà, à ce niveau-là, il y a des faiblesses, naturellement, on ne peut pas compter les résultats. Parce que l'impression que nous avons aujourd'hui, c'est qu'apparemment, les choses ont dégénéré,
oui,
mais le gouvernement n'a pas le courage de nous dire ce qui s'est fait.
Bah en tout cas, l'OMS suit de très près l'évolution de la situation. Il y a des communiqués quasiment tous les deux jours. L'OMS qui affirme avoir déployé sur le terrain plus de 250 personnes. Plus de 18 000 personnes ont déjà été vaccinées. Alors c'est un vaccin expérimental, mais qui, nous dit-on, est sûr, il est efficace. Et visiblement, ce vaccin porte ses fruits, puisque oui, il y a 139 morts, mais visiblement, voilà, l'épidémie est assez circonscrite. On aura l'occasion, là aussi, c'est promis Alain, et vous nous rappelez quand vous le voulez, vous témoignez de l'évolution de la situation, 33 9 693 693 70. On va parler du Mali. Vous avez certainement entendu sur notre antenne cette semaine que le mandat des députés sera prolongé de 6 mois, puisque la Cour constitutionnelle a donné son feu vert pour un report des élections législatives qui devaient se tenir en décembre. Finalement, elles se tiendront au mois de juin 2019. Bonjour Badara.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Bamako et vous saluez, vous, le report des élections législatives?
Oui, effectivement, je salue le report des élections législatives parce qu'à l'heure actuelle, c'est une bonne chose pour le Mali. Ce report survient avec l'accord de l'opposition et de la majorité qui ont saisi le président de l'Assemblée qui a demandé l'avis de la Cour constitutionnelle par rapport à la situation actuelle que nous vivons. Et la Cour a donné un avis vraiment que moi je salue. Ça permettra aujourd'hui d'apaiser un peu la crise post-électorale qu'il y a aujourd'hui au Mali. Ça permettra également donc de revoir les textes d'application dont nous avons beaucoup de difficultés aujourd'hui avec l'accord d'Alger et avec les lois qui ont été votées en 2012 par rapport à la création de nouvelles régions et de nouveaux cercles.
Oui.
Dont l'applicabilité aujourd'hui pose problème avec les nouveaux députés qui doivent rentrer à l'Assemblée et donc il y a beaucoup de spéculation par rapport à la partition du Mali, par rapport à beaucoup d'autres aspects.
Donc vous dites ce report finalement permettra de ramener le calme sur la scène politique, d'autant que l'élection présidentielle et la réélection du président Ibeka est toujours contestée par Soumaïla Cissé, mais ça permettra d'ici au mois de juin, effectivement, de mieux organiser les élections élections et de procéder à ces réformes institutionnelles dont vous parliez à l'instant, et notamment aussi essayer de trouver des compromis pour qu'on avance dans l'application de l'accord d'Alger dont on parlait tout à l'heure en première partie avec Gaël Lalex. Merci beaucoup Badara, bonne journée à Bamako, il est 10h55, 33 9 693 693 70, bonjour Vincent.
Bonjour, ouais. Bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale.
Vous nous appelez de Luanda, capitale angolaise. Vous êtes congolais et l'Angola, on le sait depuis le début du mois, expulse des Congolais, des personnes vivant en situation irrégulière. Selon l'ONU, plus de 250 000 personnes ont été expulsées vers la République démocratique du Congo. Et vous êtes scandalisé, vous, par le comportement des autorités angolaises.
Ouais, je suis scandalisé par la méthode surtout. Parce qu'on peut comprendre que dans un pays qu'on puisse organiser la territoriale et savoir qui exactement se trouve sur le territoire national ou pas. Mais maintenant, pour expulser les gens, je pense qu'il y a des traités internationaux, il y a le Haut Conseil des réfugiés, il y a toute une politique qui doit être mise en place pour pouvoir le faire. Sans pour autant créer d'autres problèmes, parce que quand on expulse 250 000 personnes et qu'on ne les expulse pas, ils n'arrivent pas dans un aéroport. Mmh. On les fait traverser la frontière et tout le monde se rend compte que là où ils vont, il n'y a pas de conditions pour les recevoir. On peut ouvrir la porte aux épidémies, à d'autres problèmes. Mmh. Moi, je condamne aussi, il y a une très grande part de responsabilité du gouvernement congolais aussi.
Pourquoi ?
Parce que en fait,
je précise quand même que la majorité des personnes qui ont traversé la frontière, des Congolais qui sont revenus en République démocratique du Congo, sont des personnes qui sont en situation irrégulière. Certes, certaines ont le statut de réfugiés et là, effectivement, les autorités angolaises auraient dû vérifier qui elles expulsaient avant que ces personnes traversent la frontière, puisqu'elles n'ont pas le droit. Le droit international interdit d'expulser des personnes réfugiés, mais la majorité de vos concitoyens en Angola, et vous êtes bien placé pour le savoir puisque vous êtes sur place, sont en situation irrégulière. Alors, en quoi le gouvernement de Kinshasa est-il responsable ?
Mais comme vous le dites, c'est pas un secret de polichinelle. Mais moi, je vais dire quelque chose aussi.
Rapidement.
Ces personnes qui...
Alors attendez, excusez-moi, on me dit, on n'a pas de chance, on s'excuse, mais on est en direct. Ce sont les aléas des télécommunications. Le réseau téléphone est très mauvais, Vincent. En tout cas, merci d'avoir appelé. On a compris l'essentiel de votre réaction et vous aurez lundi d'ailleurs l'occasion pour tous ceux qui nous écoutent en République démocratique du Congo et ailleurs de réagir à cette arrivée de 250 000 Congolais qui ont franchi la frontière depuis le début du mois. L'attitude, la réaction des autorités angolaises, mais aussi la réaction de Kinshasa est-elle suffisante ou pas ? Et on parlera aussi évidemment de la situation humanitaire et sanitaire à la frontière. On va terminer en parlant football très vite avec Soumani. Bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Vous êtes en région parisienne, vous êtes mauritanien et vous rêvez, mais comme tous les mauritaniens, d'une qualification de votre pays à la Coupe d'Afrique des Nations de l'année prochaine.
C'est ça, exactement. Alors, je suis français quand même d'origine mauritanienne. Mes parents sont mauritaniens.
D'accord.
Et oui, pour la première fois, la Mauritanie est presque qualifiée à la CAN. Donc, on rêve, beaucoup de Mauritaniens en France que je connais,
oui,
que la Mauritanie gagne la finale. Mais pas que la Mauritanie, c'est toutes les petites équipes.
Non, vous rêvez sérieusement d'une finale ?
Ah oui, on rêve carrément de gagner la finale, de la prendre la finale.
D'accord.
On vient pas pour rigoler, on vient en un coup et puis c'est pour repartir avec.
Eh ben écoutez, tant mieux. Déjà, encore faut-il se qualifier, hein, ce n'est pas fait, même si la Mauritanie est en tête du groupe I, avec 9 points devant le Burkina, l'Angola et le Botswana qui est déjà éliminé. Mais enfin bon, on croise les doigts évidemment pour les Mourabitoun, et on leur souhaite évidemment d'aller le plus loin possible dans la compétition. Merci Soumani, bonne journée, merci à tous de votre fidélité, toutes nos excuses encore pour les nombreux problèmes de téléphone ce matin, ce sont des choses qui arrivent, on est en direct. On se retrouve lundi, plutôt vous retrouverez lundi à ce micro, Chantal.